Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Okapi Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
Il n'y a pas un changement, donc l'épidémie continue. Il y a encore des gens qui sont infectés, il y a encore des gens qui meurent, il y a encore une petite partie qui arrive.
Bonjour et bienvenue à cette émission. L'hépatite E sévit dans les zones de santé de Guémena, Bouamanda, Tandala et Bogossé, dans le sud Ubangi. Cette maladie a déjà fait une cinquantaine de victimes. Cependant, estime la population, la prise en charge des malades n'est pas conséquente. Que faire aujourd'hui pour résoudre ce problème? Nous allons faire le point, nous allons en parler. J'invite tous ceux qui vraiment sont au courant de cette affaire afin qu'elle puisse nous renseigner. Tous ceux qui habitent de ce côté-là, c'est-à-dire du côté du sud Ubangi, n'hésitez pas à réagir au 081 070 2050 pour nous envoyer des SMS. Retenez qu'à la mise en onde aujourd'hui Jean-Claude Salla, à la réalisation J.R. Lungembo et au micro Nicole Ngaka. Cette émission est coordonnée en duo par Nathalie Mouteba et Marcel Nkobo. C'est parti donc pour Capi Action.
Amour éternel, elle t'attend. Je t'y sais. Même jamais je n'avouerai. Tu es le mal. Car personne ne peut s'effacer de toi.
Esclavage d'amour, fasciné d'amour qui vit. Esclavage de lingo, mignolo, loaonce. Yenga, yenga. So qui a l'imé, moi, si mignon, pour comment ça va, n'aura jamais ma. Tout cassé, pour ma soba, n'a fait yamo qui vit.
Après l'ombre, papa n'a serré là, continuez au lac.
Yeah.
Yamuri Okelinga Imawate, et pourtant la ta représentant non sur la terre. Tumbo Salamote, mais comme il en bon accord très belle, Yamuri Kumbinga Kumbanante Naïta Tumbo. Amoukina, Kidolina Kakaboye, Lili Lumande, Ngayawa, Nawiye.
L'amour est si amabé.
Fabien Universal, Arnaud Jombo et San Jombo, Kachana Dabangi Pouda Yapemba et
Marie Bamoyen Mado Kouere Dosman, Maxime Gonzon et Zan, Pierre Michel Ndili, Léa Henri Ostel, Gabriel Kaïdia, Hugo Mathieu Mekonsel, Yves de Rodin de Minelle, Wapi Anika Dolomdele, Odina Yamour, la marraine Adrienne et le couple, partout sur son charme. Docteur Henri Germain, mon avocat. Je suis Banda Lidé, Alain Maché Solidar. Alain Mongo, parce que le Mongo, il est là pour Waché. Mon Saint Génabre, Guim, voilà. Maria m'a tellement chanté à le
Merci de nous suivre partout en République démocratique du Congo et surtout de réagir dans cette émission parce que vous savez que tous les jours dans Capi Action, nous abordons quatre sujets et nous allons un peu partout en RDC pour parler des problèmes qui vous touchent directement. Donc c'est vraiment bien de réagir aux différents sujets en envoyant des SMS et surtout en posant des questions au 081 070 2050. Tout de suite là, nous allons à Mbandaka.
Mbandaka sur Chantron.
À l'écouteur, nous apprenons que l'hépatite E sévit dans les zones de santé de Guémena, Bouamanda, Tandala et Bogossé dans le sud Kivu, dans le sud Ubangi. Cette maladie a déjà fait une cinquantaine de victimes. Cependant, estime la population, la prise en charge des malades n'est pas conséquente. C'est à peine que l'OMS et l'OMG Minisa viennent d'envoyer des médicaments pour la prise en charge des malades. Il se pose encore un problème pour la sensibilisation de la population à se prémunir contre cette maladie déclarée épidémie. Aujourd'hui, nous allons faire le point là-dessus. Nous allons recevoir un spécialiste, ce sera le docteur Makaya, médecin épidémiologiste de l'inspection provinciale de la santé de l'Équateur. Il va nous dire concrètement ce qu'on est en train de faire à ce sujet et qu'est-ce qu'il faut encore faire pour trouver des solutions en ce qui concerne la flambée de l'hépatite E dans le sud Ubangi. Sans plus tarder, rejoignons Régine Boku afin qu'elle nous éclaire là-dessus, mais Régine, malheureusement, n'est pas encore là, donc on va recevoir plutôt Dominique Wolombi. Dominique, bonjour.
Bonjour Nicole.
C'est un plaisir que de vous retrouver à partir de Manaka, Dominique. Pouvons-nous savoir exactement quand est-ce que cette maladie a commencé à sévir dans le sud Ubangi?
Nicole, pour la petite histoire, selon le docteur Guy Metonga, la maladie a pénétré dans son secteur depuis le début de l'année. Malheureusement, les différents services sanitaires n'étaient pas informés. Ceci pour la simple raison que la plupart de la population s'est fait soigner auprès des tradis praticiens. La première personne qui a été reçue à l'hôpital général de référence de Guémena ne s'est présentée qu'à la fin du mois de juillet dernier. Après les investigations sur le terrain, les infirmiers se sont rendus compte que cette maladie avait déjà atteint un bon nombre de personnes, comme l'explique Guy Metonga, médecin chef de district du Sud Ubangi.
Et à faire les investigations, on s'est rendu compte que le phénomène a prévalu dans la communauté, hein, le phénomène de jaunisse là, a prévalu dans la communauté il y a longtemps. Comme dans notre coutume ici, cette maladie, hein, ces jaunisses ne se traitent pas à l'hôpital, c'est que les gens ne venaient pas à l'hôpital et celui-là est venu puisqu'il y avait complications. Et on a remonté. Et comme on a un comité de lutte contre les épidémies au niveau du district, nous nous sommes réunis, c'était bien tombé, nous sommes réunis et nous avons initié une mission conjointe. Nous sommes descendus sur terrain pour faire des investigations. Et on s'est rendu compte que dans la communauté, le phénomène était vraiment grave.
Voilà, là c'était Guy Metonga, médecin chef de district du sud de Bangui, qui nous a précisé, hein, Dominique, que la première personne, en tout cas le premier cas déclaré à l'hôpital général de référence de Guémena, c'était à la fin du mois de juillet. Alors depuis le mois de juillet jusqu'à ce jour, combien de cas ont été enregistrés?
Nicole, jusque la semaine passée, les zones de santé de Guémena, de Boamanda, de Tandala et de Bogossé ont enregistré 55 morts sur 662 cas identifiés. Parmi les morts, on y retrouve l'administrateur général et un administrateur général de l'hôpital et un infirmier de l'hôpital de Boamanda. En dehors des personnes qui sont enregistrées à l'hôpital, il y a plusieurs autres centaines qui restent dans leur domicile sans être repérées. Ainsi, la population par les truchements du père Joseph Casso, un missionnaire italien à Guémena, estime que la prise en charge de cette maladie n'est pas conséquente. Écoutons le père Joseph Casso.
Il n'y a pas un changement. Donc l'épidémie continue. Il y a encore des gens qui sont infectés, il y a encore des gens qui meurent, il y a encore une petite partie qui arrive à l'hôpital, et il y a encore une très grande partie qui reste dans les villages. Alors moi-même, j'ai été infecté, grâce à Dieu, je me suis en sorti. Il y a un des docteurs de l'hôpital qui a été infecté, qui actuellement se trouve à Kinshasa pour les soins, le docteur Dinui. Donc la situation se fait ici et on s'étonne. C'est ça l'appel des problèmes. On a cette impression que les autorités, donc supérieures, ont été intéressées de la chose, mais on ne voit pas un intéressement à ce propos, on ne voit pas une intervention particulière pour essayer d'enrayer l'épidémie.
Voilà, donc 55 morts déjà sur 162 cas reçus à l'hôpital de référence à Guémena. On vient de suivre les plaintes hein, du père Casso Dominique. Que disent alors les professionnels de santé à ce sujet?
Nous avons contacté le médecin chef de district qui dit que la situation commence à se normaliser à Guémena et à Bogossé. Selon lui, la prise en charge de la maladie s'est faite correctement dans cette zone de santé. Le problème est plutôt alarmant du côté des Boamanda, où l'on a enregistré 41 morts à l'espace d'une semaine. Le docteur Guy Metonga.
La prise en charge est correcte. Il s'agit ici d'un phénomène anormal. Depuis la 31e semaine, quand nous avons constaté ce phénomène, on a eu à monter un comité de crise et nous avons dû à prendre un certain nombre de mesures. Entre autres, nous sommes dit qu'il faudrait qu'une mission conjointe puisse descendre pour faire l'investigation sur terrain. Nous avons eu à passer le message phonique à tous les médecins chefs de zone de doubler la vigilance et de relever tous les cas. Nous avons procédé à la sensibilisation de la population en disant que comme il s'agit d'une maladie de main sale et qu'on a dit à exclure la présomption de fièvre jaune, il faudrait alors renforcer l'hygiène personnelle et l'hygiène en lieu public. Notamment, il faudrait bouillir l'eau, de laver correctement les mains, de laver correctement les fruits, ainsi de suite.
Voilà, donc là c'était les conseils donnés par Dr Guy Metonga. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment de médicaments aujourd'hui, Dominique, pour soigner toutes ces personnes recensées à Guémena et ailleurs à l'Équateur?
Mais selon le docteur Guy Metonga, il n'y a pas un stock suffisamment de médicaments. Il recourt plutôt à des partenaires.
Alors qui sont ces partenaires avec qui les autorités médicales du Sud-Ubangi collaborent dans la lutte contre l'hépatite E?
Il y a notamment Nicole, l'OMS et l'ONG Menisa. Ces deux institutions ont envoyé des médicaments dans les zones de santé où sévit l'épidémie. À elles seules, l'ONG Menisa, par exemple, a disponibilisé 6 tonnes de médicaments essentiels. Présentement, le responsable du bureau en charge des épidémies se trouve en mission à Gemena, toujours dans l'objectif de lutter contre l'épidémie de l'hépatite E. Jeudi dernier, le docteur Makai Adembe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tenu une conférence à l'intention des professionnels de santé pour la prise en charge correcte des malades et la sensibilisation de la population des hommes de santé concernés à observer des règles d'hygiène. Parce que selon les professionnels de santé, et comme vous venez d'écouter le docteur Guy Metonga, l'hépatite E est une maladie des mains sales ou une maladie qui est due aussi aux mauvaises conditions hygiéniques et à la boisson de l'eau non potable.
Donc si aujourd'hui la population n'arrive pas à tenir compte de toutes ces règles, on risque de croire qu'il y aura encore d'autres cas qui seront enregistrés dans les jours à venir, hein, Dominique Colombé.
Bien sûr, Nicole.
On aura d'autres détails avec le docteur Makaya, médecin épidémiologiste de l'Inspection provinciale de la santé à l'Équateur. Il viendra à nous dire peut-être ce qui est fait aujourd'hui pour gérer cette situation d'hépatite E dans le sud Ubangi. Merci beaucoup, Dominique Colombi, Matondo Mingi, et à la prochaine.
Merci, merci beaucoup, Nicole.
Pukaki, pour que la paix ne soit pas qu'une religion.
Voilà, donc pour tous ceux-là qui aimeraient réagir dans cette émission, vous êtes les bienvenus, surtout vous, habitants de l'Équateur. Nous savons qu'aujourd'hui, nous parlons de la flambée de l'hépatite E dans le sud Ubangi. Tout le monde peut être confronté à cela si on y prend garde. Hein. Raison pour laquelle nous avons associé dans cette émission le docteur Makaya, médecin épidémiologiste de la section provinciale de la santé à l'Équateur. Dans cette émission, afin qu'il nous éclaire davantage, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour gérer ce problème, la situation de l'hépatite E, c'est vraiment une réalité de la province de l'Équateur. J'invite tous ceux qui nous suivent, vraiment, vous êtes bien placés pour nous donner d'autres détails, d'autres précisions et aussi poser vos questions. Vous pouvez le faire au 081 07 70 20 50. Docteur Makaya, bonjour.
Bonjour Nicole, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Aujourd'hui, nous apprenons que l'hépatite E sévit dans les zones de santé de Gemena, Bouamanda, Tandala et Bogossé dans le sud Ubangi. Et d'après les informations qu'on a eues, il y a déjà eu 55 morts sur 662 cas reçus à l'hôpital de référence de Gemena. Ça veut dire que si on y prend garde, il y aura d'autres cas dans les jours à venir. Qu'est-ce que vous, médecin, vous faites concrètement pour tant soit peu geler cette situation?
Oui, merci beaucoup pour la question. J'aimerais préciser que, comme vous l'avez souligné, l'épidémie continue et les données de la 49e semaine épidémiologique, donc il y a une semaine, se montrent qu'il y a déjà eu 903 cas avec 67 décès. Et donc, nous sommes là pour riposter contre cette épidémie. Après l'investigation qui a été menée par les médecins des urgences de l'OMS, le docteur Jean-Robert Likofata. Donc nous sommes là pour riposter contre l'épidémie. Oui, la riposte, donc nous sommes là pour riposter. La riposte, comme c'est une maladie virale qui est transmise par l'eau, les boissons et par les aliments, donc nous sommes là pour former les prestataires de santé. Donc, dans la prise en charge de cette épidémie, dans la notification également, et nous avons également formé les relais communautaires pour la sensibilisation en orienter les malades vers les institutions de santé.
Oui, mais nous savons que dans les cas, on parle de l'hépatite B, l'hépatite C. C'est pour la première fois, en tout cas, qu'on entend parler de l'hépatite E. C'est depuis combien de temps que vous pensez que les habitants de l'Équateur, surtout ceux des zones de santé de Gemena, Bouamanda, Tandala et Bogossé, dans le sud de Bangui, en souffrent?
Oui, donc d'après les données que nous avons, c'est depuis la 31e semaine que les autorités sanitaires de ce district notifient des cas par rapport à cette maladie. Et au début, on pensait que c'était la fièvre jaune, mais les investigations menées sur place ont démontré que c'est la fièvre, c'est plutôt l'hépatite E. Et d'ailleurs, je crois que nous avons déjà eu confirmation par un laboratoire belge qui a confirmé que c'est bien l'hépatite E qu'il s'agit.
Mais selon vous, à quoi cela est dû?
Oui, donc l'hépatite E, c'est une maladie des mains sales. Donc dans la contrée, tout le monde qui a été dans la contrée constate qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour l'usage. Surtout l'eau fait vraiment défaut. Et c'est, je crois, c'est justement ça qui explique donc la survenue de cette épidémie dans la contrée.
Mais nous savons qu'un peu partout au Congo, il y a ce problème d'hygiène, ce problème de manque d'eau. Ça veut dire que un peu partout au Congo, il y a ce problème d'hépatite E?
Non, non, tout à fait. Bon, ben, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, d'après les données que nous pouvons analyser, il y a sûrement des contrées aussi qui souffrent, mais l'hydrographie de du district de Sirubanji vraiment est très favorable à l'éclosion de cette épidémie.
Comment ça? Qu'est-ce qui explique cela?
Oui, peut-être je peux vous passer le médecin épidémiologiste de l'OMS qui est à côté de moi aussi, le médecin épidémiologiste d'ici qui peut mieux vous renseigner.
Oui, vous pouvez nous le passer afin qu'il nous éclaire davantage. Vous êtes avec nous en ce moment. J'aimerais que vous vous présentez d'abord, hein, s'il vous plaît.
Oui, c'est moi, docteur Bico, le médecin épidémiologiste des districts pour l'OMS basé à Guémena.
Docteur Bico, si on peut entrer un peu plus en détail, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la maladie hépatite E puisse ainsi progresser dans le sud de Ubangi?
Comme le chef de 4e cellule, 4e bureau l'a déclaré, c'est une maladie virale. Et elle peut survenir partout où il y a la présence du virus et avec les facteurs qui peuvent le favoriser. Chez nous, dans le sud du Sangui, vous pouvez le constater si vous arrivez sur place, nous avons un problème d'eau potable et aussi, comme on dit souvent, la précarité d'eau. Et lorsqu'il y a un virus de telle espèce qui se transmet facilement par l'eau, les pointes, donc nécessairement, nous devons nécessairement développer cette maladie. C'est vrai que d'autres provinces aussi ont pratiquement le même problème.
Oui.
Peut-être il manque peut-être la présence du virus, mais le jour où ça va arriver là-bas, donc certainement, elles vont aussi développer la même maladie que nous.
Donc on peut croire que la maladie peut s'étendre dans d'autres provinces de la RDC, hein? On peut prendre cela.
Absolument. Donc c'est justement pour ça que nous faisons la synergie pour pouvoir la gérer, parce que elle peut s'étendre aussi dans d'autres provinces.
Alors ce serait bien de décrire un peu aux habitants de la RDC quels sont les symptômes de cette maladie, parce que peut-être qu'il y en a qui en souffrent déjà et qui ne le savent pas.
Oui, les symptômes sont les suivants. Il y a d'abord des petites fièvres, ce que nous appelons fébricules. Le malade se plaint de céphalée. De douleurs dans les articulations, de la fatigabilité et parfois aussi des éruptions sur la peau.
Vous remarquez,
ce sont des symptômes qui ressemblent pratiquement à la malaria. Mais une semaine plus tard, le malade peut présenter la jaunisse. Il peut faire des urines foncées. Et il présentera également manque d'appétit, que nous appelons anorexie. Il peut faire des nausées et puis aussi des vomissements, et avec un foie augmenté de volume et sensible. Voilà un peu le symptôme. Donc il y a deux phases. Il y a la phase, la première phase qui ressemble pratiquement à la grippe ou à la malaria. Et il y a une phase appelée phase ictérique, donc phase de jaunisse. Voilà un peu les principaux symptômes que présenteraient des malades lorsqu'ils feront ça. Vous voyez qu'il n'y a que le laboratoire qui peut déterminer.
Tout à fait.
Ces symptômes ressemblent aussi bien à la fièvre jaune et à toutes formes d'hépatite aussi.
D'accord, c'était important de le savoir, hein, docteur Bico. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour geler un peu que la maladie puisse s'étendre davantage? Qu'est-ce qui est fait concrètement? Est-ce qu'il y a des maladies qui sont mises à la disposition de ces différentes zones de santé?
Oui, il y a, vous voyez, en matière de gestion d'épidémie, c'est pas l'affaire d'une seule institution. Il y a l'OMS qui intervient déjà techniquement et bientôt aussi logistiquement. Mais il y a aussi l'ONG internationale MEMISA qui a déjà donné un lot de produits et ce sont des produits qui sont destinés à la désinfection des sources d'eau et aussi d'autres points d'eau de boissons. Et aussi il y a c'est plus intéressant, c'est la sensibilisation, parce qu'on ne saura pas, avec les moyens que nous avons, atteindre tous les points. Nous avons à peu près 16 zones de santé ici, et pratiquement dans les mêmes conditions d'eau. Et là, ce qui est essentiel, c'est d'apprendre à la population comment traiter de l'eau qui sont à l'aide de l'eau qui est mise à leur disposition. Donc c'est un peu ça. Donc nous sommes en train d'apprendre à la population comment traiter de l'eau qu'elle a l'habitude de prendre, en attendant qu'on puisse élargir la logistique à leur niveau.
Oui, mais on a l'impression que ça ne suffit pas encore, parce que il y a eu même des cas, des personnes qui ont été atteintes, même au sein même de l'hôpital de référence de Guémena, notamment le médecin, d'après ce qu'on a appris. Ça veut dire que jusque-là, ça ne suffit pas. Est-ce qu'il y a suffisamment de médicaments qui sont mis à la disposition de tous ces malades? Est-ce qu'on a pris toutes les dispositions possible pour éviter que ça ne devienne vraiment une grande épidémie, parce que déjà là c'est une épidémie et ça peut s'étendre davantage en RDC. Est-ce que toutes les dispositions ont été prises à ce sujet?
C'est ça, c'est-à-dire la région, notre région ici est déjà atteinte. Ce que nous pouvons faire, c'est qu'elle ne puisse pas s'étendre à d'autres régions. Et ce sont les mêmes mesures, c'est-à-dire il faut traiter de l'eau, améliorer les conditions d'hygiène de traitement de sel, donc cela veut dire il faut apprendre la population à déposer le sel dans les installations, si vous pouvez passer le terme, à déposer le sel dans les installations, dans les lieux voulus, donc le WC, de laver les mains avant de manger, et puis à éviter surtout les traitements traditionnels, parce que c'est ce qui complique un peu. Si le taux de létalité est un peu légèrement augmenté, c'est parce que la population voudrait se prendre en charge. Parce que d'après elle, des maladies ictériques ne se soignent pas des médicaments modernes, disent-elles. Alors, vous voyez, c'est tout l'ensemble de ces enseignements-là que nous formulons à l'intention de cette communauté.
Oui, mais justement, là, il y a un danger déjà, docteur Bicot. Ça signifie que beaucoup iraient voir des tradis praticiens qui vont leur prescrire des médicaments qui ne vont pas agir directement. Alors, est-ce que vous distribuez, au sein de l'OMS, vous distribuez des médicaments à domicile? Ça se passe comme ça ou bien c'est la population qui doit venir vers vous, notamment vers les centres hospitaliers?
Bon, l'OMS ne distribue pas de médicaments, l'OMS appuie, donc on met des médicaments à disposition des institutions. Il n'y a pas seulement les hôpitaux, au niveau des communautés, il y a des centres de santé qui sont dans un rayon plus proche que la communauté. Et ces médicaments sont à la disposition de la population et peuvent être consultés à tout moment. Et le problème, c'est de leur faire voir que ce sont des maladies qu'on peut soigner, bien que ce soit une maladie virale, mais qu'on peut traiter les symptômes. Et on sait, parmi ces médicaments-là, il y a des médicaments qui ne sont pas tolérés par l'organisme lorsque le foie est malade.
C'est ça, mais tout ça, c'est quand même compliqué, parce que dans bien des cas, la population, elle est parfois hésitante, hein, pour rien d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est gratuit? C'est distribué gratuitement à la population?
En principe, lors de calamités pareilles, les médicaments sont distribués gratuitement.
En principe, il faudrait vérifier.
Mais le problème, c'est que c'est vrai, on peut prendre la charge, mais ce qui prime, c'est la prévention. C'est la prévention, c'est-à-dire on doit apprendre la population à se prévenir.
Oui.
Il y a quelques cas qui sont atteints, sont soignés, mais d'autres membres de la communauté qui sont encore en bonne santé doivent savoir se prévenir contre ces maladies. Donc, nécessaire de soigner, sinon même si on peut amener des tonnes et des tonnes de médicaments, ça n'ira pas. Mais l'essentiel de savoir, c'est protéger.
Oui, vous l'avez dit plusieurs fois, docteur Bicot, l'essentiel, il faut savoir se protéger, mais il ne faut pas non plus oublier que dans ces parties de la RDC, les habitants vivent vraiment avec des moyens précaires. Alors, qui nous garantit que toutes les dispositions, tous les conseils que vous donnez à travers la voix des ondes seront pris en considération par la population de l'Équateur? C'est ça aussi le problème. Il faudrait aider vraiment cette population-là, parce que sinon, il y a de fortes chances que la situation se détériore davantage.
Voilà, c'est ce que nous avons fait. Effectivement, vous apportez dans le même sens. Hein. C'est-à-dire, au lieu peut-être d'utiliser la voix des ondes seulement, nous sommes descendus dans les différentes zones de santé. Et vous savez qu'une zone de santé est organisée en aires de santé. Et dans chaque aire de santé, il y a des centres de santé. Et dans chaque aire de santé, il y a des villages. Donc une aire de santé peut avoir même plus de 10 villages. Et l'organisation est faite dans le sens que dans chaque village, il y a au moins 2 représentants de la communauté que nous appelons communément les relais communautaires.
Oui.
Et c'est ces relais-là que nous avons formés et ils rentreront dans leur village respectif pour pouvoir sensibiliser la communauté dans la prise d'action.
Vous parlez de... Docteur Biko, s'il vous plaît, vous parlez des relais communautaires. Hein. Il y a des auditeurs qui réagissent, qui sont inquiets, notamment dans le Bas-Congo, à Mwanda, nous avons Richard, qui vous pose la question suivante. Il aimerait savoir que faisaient exactement les relais communautaires et les infirmiers superviseurs de ces zones de santé touchées au moment où l'hépatite E s'est déclarée.
Oui, mais d'abord, ils doivent avoir les formations. Ils doivent avoir les formations et la formation même. C'est ça le rôle que...
Mais comment expliquer que certains, en tout cas du moins, nous apprenons que le personnel soignant, une partie du personnel soignant a été aussi touché par l'hépatite E. Certains même sont hospitalisés ici à Kinshasa.
Effectivement. C'est-à-dire, lorsqu'il y a épidémie, on ne sait pas encore la voie de transmission. C'est ça le problème. Bon, vous savez, par exemple, la fièvre jaune est transmise par la piqûre des moustiques. Hein? Oh, c'est pratiquement le même symptôme que l'hépatite E. Donc, du moment où on ne connaît pas encore l'agent causal de cette maladie-là, donc il est normal que même nous, le corps, on peut être atteint.
Mais justement, l'information que vous nous donnez maintenant, docteur Biko, va encore inquiéter davantage la population. Il y a Bertin depuis Colwesi qui nous dit comment se transmet l'hépatite E. Qui transmet exactement l'hépatite E? Est-ce par voie sexuelle? Il aimerait savoir ça. Et si vous pouvez encore revenir sur les symptômes, ce serait bien.
Ok. Les symptômes, je veux dire qu'il y avait deux phases de symptômes. Il y a une phase qui ressemble pratiquement à une grippe. Hein. Donc, nous avons des fébricules, donc des petites fièvres. Mm. Nous avons des palais. Nous avons des douleurs dans les articulations. Nous avons la fatigabilité et parfois des éruptions sur le corps. Ça, c'est la première phase. Une semaine plus tard, le malade présente l'ictère, et parfois avec des selles décolorées, des urines foncées et parfois des manques d'appétit, nausées, vomissements, avec un foie augmenté de volume et douloureuse. Voilà, c'est ça
important. Tout à l'heure, oui, mais maintenant, quel est l'agent causal de cette maladie? Est-ce que vous avez une idée là-dessus?
Oui, c'est pour rappeler à nos auditeurs, on l'a dit. Nous avons dit que au début de l'épidémie, nous avons pensé à la maladie sous surveillance que nous avons toujours observée, c'est la fièvre jaune. Mais après avoir envoyé les échantillons, on a répondu que c'était négatif. Après, autre investigation, finalement, on est tombé d'accord, on est arrivé à isoler le virus de l'hépatite E. Donc actuellement, c'est le virus de l'hépatite E qui est l'agent causal de cette épidémie.
Oui, voilà. C'est important parce que beaucoup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit que ça se transmet, l'hépatite, en tout cas la fièvre jaune, se transmet aussi par les moustiques. Alors beaucoup auraient pu associer les deux, associer la fièvre jaune et l'hépatite E, surtout que c'est pratiquement les mêmes manifestations. C'est ça aussi le danger, hein.
Non, c'était juste pour réagir à ce que vous avez dit, que même le corps médical tombait malade. J'ai dit non, au début, personne ne savait que c'était l'hépatite E.
Mais maintenant qu'on a pu identifier l'agent causal, c'est l'hépatite E.
Je pouvais aussi tomber malade. C'est l'hépatite E et qu'on connaît le point de transmission. Donc, les précautions sont prises dans ce sens-là.
Voilà, à condition que la population arrive à respecter l'hygiène, parce que sinon, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres cas. Docteur Biko, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On aura à revenir là-dessus prochainement pour voir comment les choses ont évolué. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci, à la prochaine.
Ok, merci. C'est nous qui vous remercions.
Okapi Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Okapi Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.